Bonjour, vous allez bien? L'Esprit de Dieu est là parmi nous ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Le Seigneur, il a ouvert l'écluse des cieux au-dessus de l'église de la Chaux-de-Fonds du réveil ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir son onction? À recevoir ce qu'il veut nous dire? Est-ce que nous sommes prêts à le laisser bouleverser notre vie? Je suis venue ce matin vous parler d'un livre qui parle du Seigneur plus encore que les autres, du livre de l'Apocalypse. Soyons fous un peu, n'ayons peur de rien. Quand on regarde le livre de l'Apocalypse, souvent on dit « Oh là là, l'Apocalypse, il raconte des choses terribles, ça fait peur ». Pourtant, le livre de l'Apocalypse est vraiment le livre de l'espérance. Il est celui qui nous montre comment Dieu accomplit ses plans. Si nous devions le résumer, nous pourrions dire « Jésus a vaincu ». Il a gagné. Jésus est vainqueur, bien-aimé. Dites-le, Jésus est vainqueur. Waouh ! Dans ce livre, nous sommes invités à ouvrir nos oreilles et à entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Il veut nous révéler la gloire de Jésus et sa seconde venue. Sommes-nous prêts à l'entendre? Le livre de l'Apocalypse nous montre à quel point Jésus tient à son Église, à quel point il l'aime. Au début du livre de l'Apocalypse, nous voyons Jésus qui demande à Jean d'écrire aux sept églises d'Asie. À cette église d'Asie. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces sept églises n'ont pas été choisies au hasard. Il ne s'est pas dit « Oh, je vais en prendre comme ça un petit peu partout, dans le pays, dans la nature. » Le choix a été judicieux. Elles sont toutes positionnées les unes après les autres, la première étant Éphèse, la dernière Laodicée. Elles sont toutes positionnées le long de l'artère principale qui mène de Rome jusqu'à l'Orient. Ces sept églises symbolisent l'Église universelle à travers les siècles. Éphèse étant la première, l'église, Laodicée étant la dernière, celle qui représente l'Église actuelle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Église d'Éphèse. Et pour cela, nous allons prendre Apocalypse 1, à partir du verset 18 jusqu'à 2, 7. On peut même prendre au 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvre que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Les sept chandeliers d'or représentent donc les sept églises d'Asie. Les sept étoiles représentent les sept dirigeants, les sept pasteurs, les bergers, ceux qui sont les représentants moraux de ces sept églises auprès de Dieu. Celui qui tient dans sa main les églises, c'est évidemment Jésus. C'est donc Jésus lui-même qui s'adresse à son Église. Il se présente en tant que maître de l'Église. Il parle avec autorité. Il détient l'autorité, comme il détient la puissance. Son but n'est pas de décourager l'Église d'Éphèse. D'ailleurs, il commence par dire qu'il la tient dans sa main. C'est encourageant. C'est encourageant, bien-aimé, de savoir que Jésus tient l'Église dans sa main. On sait qu'on n'est pas une Église à la dérive comme ça, qui est rond, sans même savoir qui on aime et pour qui c'est qu'on va prier. L'Église d'Éphèse était encouragée. À travers cette lettre, Jésus veut rendre attentive son Église. Il veut ramener les chrétiens à la réalité de la vie spirituelle, à ce qui peut poser problème dans leur vie à chacun et dans leur Église. Comme Marthe dans Luc 10, l'Église d'Éphèse s'affairait dans tous les sens. Elle était à la recherche de plein d'activités spirituelles. Et pourtant, il est écrit qu'elle avait perdu son premier amour, son amour pour le Seigneur. Pourtant, quand on regarde l'histoire de l'Église d'Éphèse, on voit qu'elle avait eu de belles années. Elle avait persévéré dans la foi. Elle avait persévéré dans son dévouement, dans sa consécration. Elle avait persévéré dans la bonne doctrine, dans son attachement à la parole. Elle avait veillé à ne pas laisser rentrer les faux apôtres. Elle avait persévéré à bien des égards. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Paul écrit « Ayant entendu parler de votre foi, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce. » Paul rendait grâce pour l'Église d'Éphèse et l'œuvre qu'elle faisait. Donc, de l'extérieur, cette Église semblait en ordre. Pourtant, dans le passage de l'Apocalypse qui nous concerne, lorsque Jésus demande à Jean d'écrire à Éphèse, il savait tout ceci. Il savait combien l'Église d'Éphèse avait persévéré. Mais il savait aussi qu'elle avait fait beaucoup d'activités spirituelles. Et qu'au milieu de tout ça, dans tout cet activisme, elle avait oublié son premier amour. Elle n'aimait plus Dieu comme il le fallait. Elle était dans un état spirituel sans intimité véritable avec Dieu. On peut le faire. On peut être une église active. J'entendais cette semaine des témoignages sur des pasteurs qui ont des églises de 2000, 3000 personnes. Un rêve, certains pasteurs rêvent d'avoir de si grandes églises. Nicolas, il dit « Waouh !» Un autre pasteur me disait « Moi, j'aimerais pas avoir une si grande église. Moi, j'ai besoin de connaître tous mes membres. J'ai besoin de connaître chacun d'entre eux. J'ai besoin de savoir qui ils sont, qui ils vivent, ce qu'ils vivent. » L'église d'Éphèse était dans l'activisme. Et dans cet activisme, elle s'était refroidie. Elle était en train de perdre sa toute première vision, celle de l'amour pour son Seigneur. Malgré sa maturité, elle était en train de le perdre. Jésus, au verset 4, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu m'as abandonné. Aussi belle qu'était l'église d'Éphèse, aussi spirituelle qu'elle était, elle avait abandonné son premier amour. Je ne vous parle pas là de sentiments amoureux ou d'amour comme nous on les voit être humains. Bien que l'amour, le véritable, est un sentiment noble, je ne remets pas en cause. Ce que je vous parle là, c'est son engagement profond et véritable. L'engagement profond et véritable que chacun de nous doit avoir avec le Seigneur. L'engagement profond et véritable que notre Église, notre assemblée, que toutes les assemblées du monde devraient avoir avec le Seigneur. C'est de cet engagement-là, de cet amour-là dont je vous parle ce matin. Et quand on regarde plus loin encore, on voit que Jésus ne s'arrête pas là. Non seulement Éphèse a perdu son premier amour, mais au verset 5, Jésus dit « Repens-toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » C'est-à-dire qu'il lui enlèvera son identité, ses fonctions. Elle n'existera plus pour Dieu. Vous vous rendez compte comme ça peut être terrible ? Être là et ne plus exister pour Dieu. Jésus est le maître. Il a l'autorité, il a la puissance, il tient les églises dans sa main droite. De la même manière qu'il les tient, il peut les ôter, il peut les supprimer. Le moment venu, il peut leur dire, comme dans Matthieu 7, « Je ne vous connais pas. » Dieu aurait pu agir ainsi. Mais Jésus et Dieu ne cherchent pas à enfoncer l'Église. Ils ne cherchent pas à enfoncer l'Église d'Éphèse comme ils ne cherchent pas à nous enfoncer. Alors, il a choisi d'écrire à l'Église d'Éphèse pour la prévenir. En faisant écrire cette lettre, non seulement Jésus prévenait les chrétiens d'Éphèse, il prévenait aussi les 6 autres églises parce que les lettres ont circulé. Et il nous prévient, nous, aujourd'hui. À travers l'héritage qui est le nôtre, à travers la parole, Jésus nous prévient. Nous aussi, nous avons des choses à apprendre. Nous aussi, nous avons à veiller, à étudier la Bible, à la garder au plus profond de nous. La parole est une arme puissante qui peut faire reculer l'ennemi si nous l'utilisons bien. Mais pour cela, nous devons l'utiliser avec un esprit d'humilité, avec un esprit de fidélité, avec un esprit de persévérance, avec un esprit de servitude, avec un esprit d'amour à notre Seigneur le Christ. Nous devons veiller à ne pas laisser l'orgueil, l'amertume, la rancœur prendre le pouvoir sur nos vies. À ne pas laisser les faux enseignants ou les faux docteurs prendre la place des étoiles, c'est-à-dire des pasteurs, des ministères que Christ a placés au milieu de nous ou qu'il veut placer. Nous devons être vigilants. Ne pas laisser la doctrine ni les activités, tout aussi spirituelles soient-elles, ni mammon, ni d'autres addictions, prendre la première place et reléguer Dieu au fond de l'Église ou même dehors. Jésus est censé être à la première place dans nos vies, dans l'Église, partout où nous passons. Nous sommes l'Église, bien-aimés. Nous ne sommes pas l'Église uniquement le dimanche matin parce que nous sommes assis là ensemble. Nous sommes l'Église partout où nous passons. Nous sommes l'Église maintenant, assis ici. Nous sommes l'Église quand nous sortirons. Nous serons l'Église toute la journée. Nous le serons demain, après-demain et encore après-demain. Je vais vous donner un petit défi pour que vous vous en rappeliez. Vous avez tous un attel ? Allez, sortez vos nattels. Montrez-nous. Je vous propose de mettre une alarme demain matin à 9h30. Et là où ça sonne, à 9h30, rappelez-vous que vous êtes l'Église. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que là, au fond de vous, Jésus règne à ce moment-là? Nous sommes l'Église, bien-aimés. Alors nous devons nous interroger et nous demander, sommes-nous toujours et encore amoureux et amoureuses de Jésus? Sommes-nous toujours et encore prêts à renouveler à chaque minute notre engagement avec lui? Sommes-nous toujours prêts et encore prêts à l'accueillir comme nous l'avons accueilli au premier jour? Sommes-nous prêts? Moi, je me souviens la nuit où j'ai rencontré Jésus, enfin où j'ai rencontré Dieu, parce que j'ai d'abord rencontré Dieu. Je crois que je ne vous l'ai jamais raconté. Un soir, j'étais dans ma chambre et il m'arrivait plein de choses et ce n'était plus possible, je n'y arrivais plus. Et quelques années, enfin bien des années avant, mon père, ma grand-mère m'avaient parlé de Dieu. Et puis, entre-temps, ils étaient décédés tous les deux. Alors moi, Dieu, j'avais dit, pour moi, tu n'existes plus, sauf le jour où tu me le prouveras. Et ce jour-là, dans ma chambre, ce soir-là, j'étais toute seule, assise au bord de mon lit. Et je dis alors, Seigneur, écoute-moi bien. Si c'est vrai que tu existes, il faut que tu me le prouves, il faut que tu me le prouves tout de suite. Maintenant, là. La lumière de ma chambre s'est éteinte. Le mur s'est illuminé et la main de Dieu est apparue. Comme ça. Je suis tombée par terre. J'ai saisi cette main, à genoux par terre. J'ai passé la nuit par terre, en fait. Le lendemain, je me suis réveillée. Je vivais en colocation avec des copines. Et on avait pour habitude, le matin, au petit déjeuner, quoi qu'il arrive, on déjeunait ensemble, quelle que soit l'heure. Si la première devait déjeuner à 5 heures du matin, tout le monde se levait pour déjeuner avec elle. Le lendemain matin, quand je suis sortie de ma chambre, je suis arrivée au petit déjeuner, il y en avait une, elle se maquillait, elle fumait et elle déjeunait en même temps. Elle était extraordinaire. Alors, elle nous parlait, elle ne nous voyait pas, puisqu'elle se maquillait là devant son miroir. Elle était là et tout à coup, elle lève la tête, elle me regarde, elle me dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Moi, je ne lui dis rien. Elle me dit « T'es toute brillante. » Et moi, je ne voyais pas, mais elle, elle voyait. Elles étaient là, elles n'en revenaient pas. Et moi, j'ai sauté dans ma voiture. Je suis allée au travail. Il fallait que j'aille raconter. Il y avait un pasteur qui travaillait avec moi. Il fallait que j'aille lui raconter ce qui m'était arrivé. Pas de chance, il était en vacances. Je travaillais à Jumbo à l'époque, au Brico. Alors, sachant qu'il y avait des chrétiens à l'hypermarché, j'ai feinté, je suis allée à l'hypermarché et je suis allée raconter à tous ces chrétiens ce que j'avais vécu pendant la nuit. Je vous assure que, vous savez comment c'est, Jumbo, il y a plein de monde dans les rayons. J'ai passé 2 heures là-haut, dans les rayons, avec chacun de ces chrétiens à leur raconter ma nuit. Pendant ce temps, il ne passait personne dans les rayons. J'avais tellement soif de parler et de témoigner que Jésus virait tout le monde des rayons pour qu'eux puissent m'écouter. Parce que sinon, les gens seraient venus déranger les vendeurs et moi, je n'aurais pas pu leur raconter. Je suis allée témoigner là-haut pendant 2 heures de temps. Quand je suis revenue à ma place, on avait une vieille secrétaire, je me suis dit, oh là là, elle va m'engueuler parce qu'elle nous engueulait quand elle ne savait plus où on était. Elle ne s'était même pas rendue compte que j'étais absente. Il avait même caché mon absence pour que je puisse aller témoigner. Et j'ai été comme ça témoigner. J'étais avec Michel Ollier, certains parmi vous le connaissent. J'étais avec le pasteur Michel Ollier, on allait dans les bistrots, on allait témoigner. C'était mon premier amour. Après, je dois vous le dire et vous l'avouer, j'ai un peu oublié. La vie, les choses, les machins, j'ai un peu oublié. Alors maintenant, je recommence. Alors, vous voyez, je suis là ce matin. Alors, bien-aimés, je vous invite à ça, à vous rappeler ce jour où vous vous êtes mis à nu devant le Seigneur. Ce jour où vous avez accepté qui viennent jusqu'au plus profond de vous et qui vous bouleversent, qui bouleversent votre vie. à vous rappeler ce jour où il est entré dans vos vies. Et à vous interroger. À regarder. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes détourné de lui? Est-ce qu'à un moment, vous l'avez oublié? Jésus, lorsqu'il a écrit à l'église d'Éphèse, il savait bien que ce qu'il écrivait, ce n'était pas n'importe quoi. Il les connaissait bien. S'ils nous ont laissé cet héritage, c'est parce que Jésus nous connaît bien. Il sait bien qu'on n'est pas parfait. Il sait bien qu'on est capable de l'oublier. En plus, dans les temps dans lesquels nous sommes à la fin des derniers temps. Je sais, ça fait 2000 ans qu'on annonce qu'on est dans les derniers temps. Mais là, on est à la fin de ces derniers temps. Le retour du Christ est plus proche que jamais il ne l'a été. Et nous, où en sommes-nous? Sommes-nous prêts? Si ce soir il revient, sommes-nous prêts? Si demain il revient, sommes-nous prêts? Ou l'avons-nous oublié? Allons-nous lui dire « Oh, pas aujourd'hui, Seigneur, on n'a pas le temps, tu vois, on a des trucs à faire. On doit aller travailler, on doit aller à l'école. » Des anciens tout à l'heure me disaient « Depuis qu'on est à la retraite, on est encore plus qu'occupés qu'avant. » Est-ce que nous allons être trop occupés pour revenir à notre premier amour? Alors je vous invite à vous interroger. À vous interroger chacun séparément pour vous-même, à nous interroger en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, à oser lui demander pardon si nous nous rendons compte que nous nous sommes détournés ou éloignés de lui, à oser revenir et à ne plus ressombrer. Veillons à tenir ferme malgré l'adversité, malgré les épreuves. Soyons fidèles, redevenons fidèles à Jésus, afin d'être des hommes et des femmes heureux, car ne marchant pas selon le conseil des méchants, ni selon les conseils de ce monde. Afin d'être des servantes et des serviteurs capable de méditer la parole jour et nuit s'il le faut, si notre Seigneur nous le demande. Dans ces temps où beaucoup de blessés de la vie vont arriver, soyons des servantes et des serviteurs prêts à nous lever même la nuit si l'Esprit nous le demande pour les accueillir ou pour prier pour eux. Bien-aimés, décidons et agissons en conséquence. Retrouvons l'engagement véritable que nous avions au départ avec le Christ afin de faire partie des vainqueurs, afin de faire partie de ceux qui auront des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises et de ceux qui mangeront les arbres, les fruits de l'arbre de la vie. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci parce que même si nous nous sommes éloignés de toi, même si nous t'avons oublié, toi, tu ne nous as pas oubliés. Tu veux nous rappeler, Seigneur, plus que jamais à quel point tu nous aimes, à quel point tu prends soin de nous, à quel point tu veilles sur nous. Aide-nous, Seigneur, à saisir ta main. Encore une fois, à la saisir encore avec plus de volonté. Aide-nous, Seigneur, à oser nous tourner vers toi et te demander pardon là où nous avons péché, là où nous avons fauté, là où nous t'avons oublié. Donne-nous l'humilité nécessaire, Seigneur, afin que nous puissions revenir à toi et ne plus nous perdre. Amen.